Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro pour vous présenter cette édition d'Escale, tour d'horizon des missions de paix en Afrique francophone. Les représentants spéciaux des missions onusiennes au Mali, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo se sont rendus à New York avec les pays membres en marge du débat de haut niveau de l'Assemblée générale. L'occasion pour ONU Info de les recevoir dans ses studios et de faire le point sur ces processus de paix. Le débat de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est aussi l'occasion pour les pays du monde de s'accorder au plus haut niveau sur les crises sécuritaires et les processus de paix en cours. C'est ainsi que chaque année, les représentants spéciaux chargés des missions de paix onusiennes viennent à New York pour exposer les priorités aux dirigeants en marge du débat général. Pour le Mali, après une élection présidentielle réussie, tenue dans les délais, l'heure est à la mise en œuvre de l'accord de paix afin d'asseoir la situation sécuritaire et permettre à la population de retrouver les services de base, éducation, santé. On écoute Mahamat Saleh Anadif, représentant de l'ONU pour le Mali et chef de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali.
En ce deuxième semestre de l'année 2018, la situation politique au Mali se caractérise par l'élection présidentielle réussie. Donc c'est un développement politique assez important qui nous interpelle. Nous avons réussi les élections, d'accord, mais au-delà des élections, la mise en œuvre de l'accord pour la paix demeure une préoccupation. Il y a des attentes. Le président nous a rassurés en disant dans son premier discours que l'accord pour la paix est sa priorité. Un ministère entier lui a été dédié. Nous osons espérer que nous avancerons de façon substantielle au courant de cette année 2018. Au niveau sécuritaire, pendant toute la période des élections, les choses se sont bien passées. Il n'y a pas eu beaucoup de perturbations. Malheureusement, nous constatons depuis le mois d'août-septembre une recrudescence du banditisme, du vol à main armée, la criminalité organisée, les trafics et autres, qui sont une autre source d'inquiétude. Nous osons espérer qu'avec la relance du processus de paix, les mouvements signataires, le gouvernement, nos partenaires Barkhane et la MINUSMA feront en sorte que les populations soient à l'abri de ces genres de menaces.
Alors justement, vous mentionnez la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Quelles seraient les prochaines priorités dans la mise en œuvre de cet accord?
D'abord, au mois de mars 2018, les mouvements signataires de l'accord ont signé ce qu'on appelle la feuille de route du 22 mars. Ils ont répertorié un certain nombre d'actions urgentes qu'ils devraient réaliser. Le 30 juin 2018, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 24-23 qui répertorie un certain nombre également de priorités, notamment l'organisation dans de bonnes conditions de l'élection. Nous l'avons déjà derrière nous. Il reste cependant à réussir, consolider la paix, à réussir l'intégration des mouvements armés dans l'armée malienne reconstituée. Il reste d'accélérer la réforme du secteur de sécurité. Il reste également surtout à accompagner la présence ou le redéploiement des autorités maliennes au nord du pays et surtout la montée en force des forces de défense et sécurité qui sont parmi les priorités les plus essentielles que nous osons réussir d'ici la fin 2018.
Alors quels sont les progrès tangibles, envisageables dans les 6 prochains mois?
Pendant cette période, nous comptons dans un premier temps réussir à ce qu'un embryon de l'armée reconstituée puisse se faire. On a les premiers éléments qui sont les unités mixtes qui sont au niveau du MOC. Si on peut déjà commencer par cela pour commencer à reconstituer l'armée, ça sera un pas extrêmement important. Le gouvernement a déjà nommé des sous-préfets et des préfets dans toutes les localités où il n'y a pas des autorités administratives. La présence effective, à savoir le redéploiement de ces autorités administratives est un point important, mais il doit être précédé par un redéploiement également des forces de défense et sécurité pour rassurer la population et faire en sorte que les services sociaux de base puissent suivre. Et je crois qu'il est temps que la population puisse jouir d'un début de la mise en œuvre de l'accord, à savoir le retour de l'autorité de l'État, le retour de services sociaux de base, ça serait quelque chose d'extrêmement important pour répondre aux attentes de ces populations. Le temps de parler est terminé. Il est extrêmement important maintenant qu'on pose des actes, qu'on fasse des actions concrètes, parce que le Conseil de sécurité nous attend dans 6 mois. Nous devrons apporter les preuves palpables que les choses ont bougé et nous espérons pouvoir les faire bouger.
En République centrafricaine, la mise en œuvre de la feuille de route pour la paix et la réconciliation, établie par les pays de la sous-région et l'Union africaine en juillet 2017, demeure la priorité. Des pourparlers entre le gouvernement national et les groupes armés devraient avoir lieu d'ici fin novembre. La MINUSCA, la mission de l'ONU en République centrafricaine, appuie ses efforts. C'est ce qu'explique le représentant spécial et chef de mission Parfait Onanga Anyanga au micro de Jérôme Bernard.
Écoutez, une initiative de paix dans un pays comme la Centrafrique est toujours une très bonne nouvelle. L'année dernière, l'Union africaine, les pays de la communauté des États de l'Afrique centrale ont adopté ce qu'ils appellent la feuille de route pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine en juillet 2017. Et depuis, cette feuille de route est en train d'être appliquée. Les membres du panel conduit par le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine sont à pied d'œuvre. Nous sommes dans une phase importante du processus de paix. Et entre la fin du mois d'octobre et la mi-novembre, des discussions face à face, gouvernement, groupe armé, devraient avoir lieu. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes nous-mêmes évidemment à pied d'œuvre pour soutenir et appuyer cette initiative. Nous avons dépêché un ensemble d'experts à la médiation pour assister l'Union africaine et les pays de la sous-région dans cet effort. Le gouvernement, bien entendu, également. La dynamique du conflit en République centrafricaine est telle qu'il y a surtout, je crois, sur le terrain, des zones de tension qui nécessitent qu'elles soient prises en charge au quotidien. Donc la MINUSCA appuie l'effort de paix dans le pays à travers ses initiatives de médiation locale avec le gouvernement dans les différentes préfectures du pays. Voilà, c'est tout cela qui nous occupe et nous avons confiance que nous pensons qu'il y a aujourd'hui des chances de voir aboutir un processus de paix en République centrafricaine.
Pourtant, il semble qu'une partie des centrafricains rejettent le dialogue car ils considèrent qu'il n'a pas arrêté la violence. Quel est votre message à ces centrafricains qui ne croient pas à ce dialogue ?
Deux choses. D'abord, il n'y aura pas de solution militaire à la crise centrafricaine. Il va y avoir évidemment un besoin, le moment venu, d'utiliser tous les outils que le Conseil de sécurité a mis à notre disposition, notamment la force, et nous le faisons déjà, à travers l'arrestation de chefs de guerre qui continuent de s'aimer la mort et la violence dans le pays, à travers l'appui au programme de réduction de la violence communautaire qui produisent des résultats remarquables. Nous le faisons également à travers l'appui au processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration qui est en cours. 7 groupes armés ont accepté volontairement de rentrer dans ce programme national de DDR. Donc il va falloir être persistant, il va falloir être patient. Je comprends le sentiment de ces populations et c'est un équilibre délicat à tenir entre conduire des discussions face à face gouvernement, groupe armé et s'assurer que les vues et les préoccupations de populations qui ont vu plusieurs accords de paix être négociés puis échouer, je comprends qu'il y ait le doute, mais nous ferons tout pour évidemment les rassurer.
Vous avez mentionné ce programme de DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, avec 7 groupes armés. Est-ce que vous êtes optimiste spécifiquement sur ce programme dans cette région ?
Absolument, je crois qu'il faut être optimiste. Le processus de désarmement, démobilisation, réintégration, c'est un processus qui découle de plusieurs facteurs. L'un, c'est le sentiment que s'il y avait des préoccupations politiques, elles sont en train d'être prises en compte dans ce processus de dialogue. L'autre, qui est une indication que la confiance revient, donc les gens étant en confiance, évidemment, ne voient plus de raison de garder les armes. Puis le troisième aspect, dans le cas de beaucoup de ces groupes armés, les armes ont été prises aussi pour des nécessités sociales et économiques. Et nous avons ce programme, comme le programme Londo par exemple, qui permet de recruter pour l'instant pour les emplois relativement temporaires près de 1000 personnes. Donc c'est quand même un exercice important qui mérite d'être soutenu. Un premier projet pilote lancé l'année dernière par le chef d'État a conduit à la recrutement de plus de 250 anciens combattants dans les forces de défense. Cela a marché au niveau pilote, il faut maintenant essayer de le réaliser grandeur nature. Et le processus de dialogue en cours nous donne bon espoir que nous parviendrons bien à rassurer les uns et les autres et à rentrer dans un processus de réduction de la violence dans le pays et finalement de désarmement.
Pour la République démocratique du Congo, l'enjeu central le plus important en ce dernier semestre de 2018 est l'élection présidentielle qui doit se dérouler le 23 décembre prochain. Elle a été reportée à deux reprises déjà, mais semble être sur les bons rails. Selon la représentante spéciale de l'ONU pour le pays et chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, Leila Zerougui, que l'on écoute au micro de Pascal Sim.
C'est des élections extrêmement importantes. Importantes parce que c'est nouveau dans le contexte de la RDC. C'est nouveau même dans la région, c'est important pour les Congolais qui sont en train de passer d'un pouvoir qu'on hérite ou qu'on prend de force vers une représentation populaire des élections plurielles. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faciles à digérer. C'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important parce que si on réussit ces élections avec un maximum d'inclusivité et d'élections ouvertes et dans la paix, ça veut dire qu'on a vraiment franchi le pas vers la stabilité. C'est pour ça que nous considérons que c'est important d'accorder de la crédibilité à ce processus. Il y a beaucoup de tensions. Il y a des candidats qui n'ont pas pu postuler parce que soit il y a eu des interdictions dans la loi congolaise qui sont parfois contestées. Des gens qui ont pu déposer leur candidature puis rejeter. Donc c'est quand même un contexte qui n'est pas facile. Mais je continue personnellement à considérer que quels que soient les défis que nous allons rencontrer, nous devons continuer à jouer notre rôle. Nous avons un mandat. Je dois personnellement utiliser au maximum mon mandat de bons offices. Nous devons continuer à appuyer et le gouvernement et l'opposition et la société civile pour que chacun influence positivement, pour que chacun se positionne, pour que ces élections se fassent et que le lendemain des élections, nous aurons une situation beaucoup plus paisible et prometteuse que celle qui prévaut aujourd'hui.
Alors, quelle est la situation dans le pays entre les partis au niveau de la confiance ?
Il y a bien évidemment beaucoup de tensions, toujours. Il y a des griefs, mais ce que je vois, c'est que malgré le positionnement de l'opposition, les critiques, malgré les défis, malgré les difficultés, les Congolais continuent de croire en ces élections puisque personne n'a retiré sa candidature, personne n'a dit « je ne veux plus aller aux élections ». Tout le monde continue à mettre la pression pour que ces élections, pour que son parti, pour que ses partisans croient en ces élections.
Voyez-vous de la part de toutes les parties une volonté de vouloir apaiser la situation pour que chacun puisse s'exprimer, faire campagne en paix ?
Ce que nous craignons, c'est la campagne. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas une tradition d'organiser une campagne, d'accepter les paroles des uns et des autres, d'accepter l'espace ouvert à chacun, c'est là où il y a des risques de dérapage, de violence, etc., d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça que nous pensons que c'est important de préparer les gens pour cette campagne. Aujourd'hui, est-ce que l'espace est totalement ouvert ? Bien sûr que non, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est satisfait ? Bien sûr que non. Mais ce que nous voulons, c'est de convaincre les autorités, couvrir les espaces, permettre aux gens de s'exprimer, de manifester, est moins dangereux pour eux que de réprimer les gens. C'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt du Congo, c'est dans l'intérêt de toute la population, de l'avenir, c'est dans l'intérêt du président Kabila qui quitte le pouvoir. Si ces élections vont être des élections qui se déroule correctement. C'est quelque chose qui sera aussi à l'actif de ce président qui quitte, qui ne se représente pas, qui ne change pas la Constitution, qui permet à ce qu'il y ait des élections ouvertes. Tout ça, c'est important. L'objectif, c'est d'arriver à ce que le lendemain du 23, nous aurons un pouvoir élu qui aura la légitimité de gouverner le pays pendant 5 ans et de gérer tous les problèmes qui aujourd'hui affectent le quotidien des Congolais qui se font tuer, qui se font attaquer chez eux, qui sont chassés parfois de leur maison. Donc c'est un travail à faire dans les zones de conflit. Même dans les zones où il n'y a pas de conflit, vous avez tout le travail à faire pour développer le pays, pour permettre aux gens de bénéficier des richesses et du bien-être dans leur pays. Mais il faut convaincre chacun des parties prenantes dans cette élection que c'est dans leur intérêt que les choses se passent bien.
Et c'est avec ces paroles d'espoir de Leila Zerougui pour la République démocratique du Congo que se referme cette édition d'Escale consacrée au processus de paix en Afrique francophone. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.